Et si vous connaissez un peu ce sermon sur la montagne, vous savez qu'en fin de compte, Jésus a vu une foule et est monté sur une montagne et cette foule l'a suivi. Et il est évident que dans cette foule, il n'y avait pas que des personnes qui suivaient Dieu. Des personnes ont été intéressées, sont venues. Ils ont écouté. À l'époque, il n'y avait pas de cinéma. Et ce n'est certainement pas les Juifs de l'époque qui pouvaient se permettre d'aller dans les théâtres romains. Il n'y avait pas de distraction, oui. Et donc voilà quelqu'un de spécial, parce que tout le monde a entendu que cet homme était spécial. Cet homme spécial vient et toute une foule commence à le suivre, les gens commencent à le suivre, il monte sur la montagne et commence à parler. Et il est évident que devant lui, il y a des personnes prêtes pour Dieu, croient en Dieu, d'autres qui vont croire en Dieu et certains qui ne croient pas en Dieu. Et je sais ce matin que devant moi, il y a des personnes qui croient en Dieu. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être croire en Dieu et certains qui ne croient pas en Dieu. Mais si nous sommes enfants de Dieu ce matin, alors nous souvent nous disons nous connaissons Dieu. Du moins, nous connaissons Dieu en partie. Nous avons tous une certaine expérience de la vie avec le Seigneur, car c'est lui qui nous a sauvés, n'est-ce pas? Et pour nous sauver, il a agi dans notre cœur. Il a fait quelque chose de merveilleux. Nous avons lu cet extrait de Romains, dans Romains 5, où il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors si nous sommes vraiment en Dieu, nous avons dû vivre cette transformation. Ce que nous appelons la conversion, nous avons dû reconnaître que nous étions pécheurs et perdus. Nous avions dû courir à Dieu, lui demander pardon pour ses péchés qui sont en fait offensants envers lui. Paul nous affirme même au verset 11 de ce passage, « Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Il y avait un abîme de séparation entre nous et Dieu, mais en Christ, nous avons obtenu la réconciliation. C'est une action de proximité quand on se réconcilie avec quelqu'un. On ne peut pas se réconcilier avec quelqu'un qui maintenant est en Australie. Alors vous allez me dire peut-être par téléphone, mais ce n'est pas la même chose. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut une proximité. Et là, peut-être, on commence à comprendre que Dieu est un Dieu de proximité. Malgré le fait que nous savons fort bien beaucoup de choses, et cette chose-là peut-être, il me semble que parfois, il nous manque une certaine conscience de la présence et de la proximité de Dieu dans notre vie. Nous savons qu'il est le Créateur, nous savons qu'il est tout-puissant, nous savons qu'il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais peut-être nous avons l'impression qu'il est loin. Pourtant, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible nous enseigne que Dieu est omniprésent. Il est partout. Comme le démontre encore le psaume que nous avons lu, le psaume 139. Mais nous sommes bien souvent, nous ne sommes pas conscients de cette réalité. Alors, juste un exemple qui est pauvre, mais qui est parlant. Ce matin, tous devant moi, et moi aussi, nous portons des sous-vêtements. On ne les voit pas, on ne les sent même pas, mais ils sont là. Ou alors, si vous allez... quand je vais au travail le matin, je prends l'autoroute vers l'Allemagne et ensuite je prends l'autoroute vers Bâle. Et quand je tourne près de chez Aristide, je regarde vers la Suisse et des fois, pas souvent, des fois, je vois les Alpes. Alors les jours où je ne vois pas les Alpes, est-ce qu'elles sont absentes? Est-ce qu'elles se sont déplacées? Non, c'est juste le temps, la météo qui ne me permet pas de les voir, mais elles sont là. Ou encore, si vous ne venez pas à la formation cet après-midi et que vous allez vous promener à Mulhouse, vous pouvez vous promener dans les rues de Mulhouse pendant des heures sans voir la fameuse Tour de l'Europe. Mais si vous vous promenez dans les rues, est-ce que la Tour de l'Europe est absente ? Non, elle est là. C'est juste les bâtiments qui vous empêchent de la voir. Elle est toujours là. Avec ces exemples un peu simples, nous pouvons un peu comprendre cette présence, cette omniprésence, ce Dieu toujours là. Mais ce Dieu n'est pas seulement là, il est prêt. Et c'est sur ce sujet que j'aimerais parler ce matin. Cette intimité avec Dieu, cette proximité avec Dieu. Cela vous étonnera peut-être de parler de l'intimité avec Dieu avec ce chapitre 6. Certains me diront « Non, il y a la prière. » Mais je ne vais pas me concentrer sur la prière du Seigneur ce matin. Si vous avez écouté la lecture, vous avez remarqué qu'à trois reprises, Jésus dira « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, si nous voulons rentrer dans ce passage, il faut quand même prendre la porte, je dirais. Et si nous prenons la porte, nous apprenons au chapitre 4, verset 25, qu'une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, au-delà du Jourdain. Et comme je le disais tout à l'heure, cette foule le suit. Jésus monte sur une montagne, il s'installe et il va commencer à leur parler. Tout d'abord par ces fameuses béatitudes que nous connaissons. « Bienheureux, heureux serez-vous. » Puis en affirmant un peu plus loin, « Vous êtes le sel de la terre. » Puis il commence à les enseigner sur ce qu'ils ont appris en leur disant « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous avez appris, tu ne te parjureras pas. Vous avez appris, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et dans chacun de ces cas, il va ajouter, « Mais moi, je vous dis. » Puis nous arrivons à ce chapitre 6. Et à ce chapitre 6, c'est le même auditoire qui est devant lui. Le Seigneur leur dira, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Maintenant, le Seigneur va leur parler de certains domaines de la vie personnelle. Il va leur parler de l'aumône. Il va leur parler de la prière. Il va leur parler du jeûne. Il va parler de leur vie par rapport à ce Père qui est dans les cieux. Il va leur parler de ces domaines qui sont à vivre avec Dieu, à vivre pour Dieu. Malheureusement, pour les humains dont nous faisons partie, nous avons une autre tendance. Au lieu de vivre avec Dieu et pour Dieu, nous avons tendance à vivre devant les hommes et pour notre orgueil. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut et le Seigneur va nous le montrer. Ce qui est surprenant dans ce texte, c'est que le Seigneur commence par s'adresser à la foule qui est devant lui. N'est-ce pas ? Vous ! Et dans ce passage, à trois fois, le « vous » subitement se transforme en « mais toi, mais tu ». Il s'adresse à la foule, puis s'adresse personnellement à chaque auditeur devant lui. Il s'adresse personnellement à chaque âme qui est là, assise sur cette montagne à l'écouter. Et si nous lisons ce texte, il s'adresse personnellement à chacun d'entre nous ce matin. Je vais donc exposer ce texte en trois parties, mais le prendre d'une manière parallèle. Je vais prendre les trois trois paragraphes de ce texte ensemble et nous allons le survoler en considérant trois points. Le premier point est une vie orgueilleuse devant les hommes. D'ailleurs, le Proverbe 16, verset 8 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Qu'est-ce que l'orgueil ? Vous connaissez l'orgueil ? Se mettre en avant, être reconnu par les autres, se montrer aux autres. Le Seigneur Jésus s'adresse à la multitude en disant « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. » Un peu plus loin, « Donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites. » Devant les hommes. Ou lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à se montrer en public. Ou encore, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Nous arrive-t-il d'agir ainsi? Malheureusement, cela nous arrive, cela m'arrive. Pourquoi? Parce que dans notre nature profonde, dans notre cœur, cela flatte notre orgueil d'être mis en avant. Mais il nous faut nous poser cette question. Est-ce que cela, finalement, nous apporte quelque chose? La seule chose que cela produit, c'est d'être remarqué et vu devant les hommes. D'ailleurs, le Seigneur affirme à la suite de ces affirmations, il continue en disant « devant les hommes pour en être vu » ou « afin d'être glorifié par les hommes » ou encore « pour être vu des hommes » ou pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Vous voyez, se montrer devant les autres est si important. Au fond, qu'est-ce que cela nous apporte-t-il? La reconnaissance, l'admiration, l'honneur, est-ce que cela vous nourrit? Est-ce que c'est ce que nous devons rechercher dans nos vies? Malheureusement, ces attitudes accomplissent quelque chose de très mauvais. Elles détournent la gloire de celui qui devrait être glorifié, l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui devrait être glorifié, c'est lui qui devrait être honoré, et pas nous. Alors réfléchissons un instant. Si je peux être vraiment juste, pour reprendre la parole du Jésus, c'est parce que je connais la justice de Dieu. Si je peux faire l'aumône, c'est parce que Dieu m'a donné de quoi partager. Si je peux prier, c'est pour m'adresser à mon Père céleste parce qu'il m'a sauvé et je peux donc maintenant m'adresser personnellement à lui. Ou si je jeûne pour Dieu, c'est parce que je veux prendre un temps particulier avec lui, un temps pour lui. Au fond, comment pouvons-nous agir dans ces domaines sans penser à Dieu? Bonne question. Car Dieu est vraiment au courant de tous nos faits et gestes. C'est ce que nous rappelle le psalmiste au psaume 139, n'est-ce pas? En agissant de cette mauvaise manière, je ne glorifie pas Dieu. Je me glorifie moi. Le Seigneur Jésus termine d'ailleurs chacune de ses observations par la même conclusion, en disant « Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Vous voyez, ils veulent se montrer devant les hommes, ils ont leur récompense. Ils ont ce qu'ils voulaient, ils sont vus. Mais ça s'arrête là. Parce que cette récompense, cette estime des hommes, est finalement du vent. Elle ne récompense pas vraiment l'hypocrisie. Elle n'apporte pas vraiment quelque chose et Dieu ne récompense pas l'hypocrisie. Il la punit. Le Seigneur dénonce cette attitude. D'ailleurs, dans Matthieu 23, verset 23, il dira « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites !» C'est une malédiction qu'il leur envoie. Malheur à vous, à cause de cette hypocrisie. Ce n'est pas ce que Dieu veut, il veut une autre chose. Et cela me conduit à mon deuxième point, une vie dans la présence de Dieu. Toujours dans le Proverbe, chapitre 16, verset 20, il est dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » En reprenant la suite, chaque fois, de ces trois paragraphes, nous remarquons quelque chose. En effet, le Seigneur Jésus maintenant s'adresse avec un « tu » à chaque personne en particulier. Mais quand tu fais l'aumône, mais quand tu pries, mais quand tu jeûnes, le Seigneur Jésus s'adresse à chaque cœur qui est présent là devant lui. Il ne s'adresse plus à l'ensemble, mais à chacun en particulier. Et c'est ainsi qu'il s'adresse à chacun de nous en particulier quand il est question de notre vie dans sa présence. Mais quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes, Jésus s'adresse à toi et à moi en particulier. Il le fait pour nous interpeller dans notre vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle est avant toute chose une vie personnelle, personnelle et seule avec Dieu. Rappelez-vous des paroles du psalmiste. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Oui, je dois raconter à mon Seigneur ma vie, échanger avec lui personnellement, parler de ma journée. J'ai encore chuté dans le péché aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi. Ou lui parler de nos joies. Je suis heureux, Seigneur, car j'ai pu parler de toi aujourd'hui. Ou lui parler de ce que vous venez de lire dans la Bible. Seigneur, je viens de lire ce passage par lequel tu me parles tellement. Dieu est toujours là, à chaque instant de nos vies, dans chacune de nos actions, bonnes ou mauvaises. Ainsi, nous ne le surprendrons jamais. Ce n'est pas comme si nous allions à la porte du patron. Est-ce que vous avez 5 minutes ? Non, Dieu est là. Il est toujours là. Il prend toujours le temps. Alors agissons et vivons pour lui. Faisons les choses devant lui. Seigneur, si tu me permets de faire l'aumône, si tu me permets de donner, je suis reconnaissant. Regarde, Seigneur, ce que je peux donner. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. Si je peux prendre du temps dans la prière personnellement avec Dieu, je suis heureux, ô Dieu, que tu m'écoutes. Heureux de ce que je peux m'adresser en toute simplicité à toi. Je déverse mon cœur devant toi. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. Ou si je veux mettre du temps à part, si je veux réfléchir à Dieu par un jeûne, que je veux prendre ce recul avec Dieu, les autres n'ont pas besoin de le savoir. C'est une manière différente d'agir, n'est-ce pas? Nous pouvons même dire que c'est une manière différente de vivre. Vivre pour Dieu et avec Dieu. Ce qui change, je n'agis plus pour moi, j'agis pour mon Dieu. J'agis pour l'honorer, lui, pour le remercier, lui, pour le prier, lui, pour m'adresser à lui. Et maintenant, mon aumône se fait en secret. Je prie mon Père qui est là, dans le lieu secret. Alors, je peux être au milieu d'une foule et dans mon esprit, prier mon Dieu. Dans ma voiture, et je peux prier mon Dieu. Sur mon lieu de travail, je peux m'adresser à lui. Je n'ai pas besoin de me lever et d'attirer l'attention sur moi parce que je suis en train de prier, non ? Il est là, à cet instant-là. Et quand je jeûne, c'est à mon Père céleste que je montre mon jeûne. C'est pour lui que je jeûne. Et donc, je le fais secrètement pour lui. Et moi, en vivant devant Dieu et avec Dieu, je prendrai l'habitude d'agir comme Jean-Baptiste, qui disait en Jean 3,30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jésus ajoute tout naturellement à chacun de ses enseignements « Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » C'est toute la vie qui change et cela nous mène à notre troisième point. Une vie selon la volonté de Dieu. Quand Pierre dit dans 1 Pierre 2,9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Il veut faire remarquer à ses lecteurs que ces lecteurs-là, s'ils croient en Dieu, ils font partie de ce peuple. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Et c'est une réalité qu'il faut s'approprier. Vous faites partie de ce peuple de Dieu. Alors comment vivez-vous avec lui ? Comment vivez-vous avec votre Dieu ? Il nous a appelés des ténèbres, nous dit Pierre, à son admirable lumière, pour vivre pour lui, pour vivre devant lui. C'est pour cela qu'il nous a sauvés par Jésus. Par le Christ, nous avons été faits enfants, adoptés par Dieu, lequel a fait de Dieu notre Père. Ainsi, les paroles de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19, deviennent nôtres. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous faites partie du peuple de Dieu, de la maison de Dieu. Vous rendez-vous compte ? Quelle grâce nous avons en tant qu'enfants de Dieu de faire partie de sa maison. Sa maison, dans la Bible, c'est souvent utilisé pour la famille. Faites partie de sa maison, de sa famille. Il nous a sauvés pour lui, pour que nous ayons cette relation personnelle avec lui, tout en célébrant la gloire de sa grâce. Nous sommes invités à vivre avec lui une relation, une vie d'intimité. Car oui, il s'agit de lui, de Dieu dans ma vie pour lui. Si nous prenons conscience réellement de cela, nous ne pouvons plus vivre comme avant. nous ne pouvons plus vivre comme les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ainsi, toute notre vie va changer. Nous ne sommes plus seuls. Notre Dieu est toujours avec nous. Le célibat doit se vivre différemment. Le veuvage doit se vivre aussi différemment. Même si humainement, c'est difficile, je donne cet exemple, parce que Dieu est toujours là. Si vous êtes en voyage de l'autre côté de la terre et qu'il n'y a personne que vous connaissez autour de vous, vous n'êtes pas seul. Dieu est là. Il s'intéresse à vous et il ne vous abandonnera jamais. Nous ne sommes plus seuls et en vivant cette intimité avec notre Dieu, nous ne pouvons plus nous permettre de vivre médiocrement. Au contraire, en faisant tous nos efforts pour ressembler à Jésus-Christ, nous devons chercher à plaire à Dieu. Oui, nous sommes encore pécheurs. Oui, nous chutons encore. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes encore sur cette terre. Mais quand nous chutons, cela ne doit plus nous laisser indifférents. Donc, nous devons nous repentir et nous devons chercher à plaire à Dieu. Nous devons nous repentir auprès de Dieu, rechercher son pardon, vivre pour sa gloire. Nous ne sommes plus seuls, nous ne pouvons plus vivre médiocrement et maintenant nous pouvons nous réjouir en Dieu. Nous réjouir de son œuvre. Nous réjouir de l'Évangile, nous réjouir de sa bonne main sur nous au quotidien, nous réjouir de toutes ces grâces merveilleuses qu'il nous accorde. C'est une joie. C'est une joie. Et nous avons là une raison parce que Dieu est là avec nous dans toutes ces circonstances. Oh Dieu, c'est merveilleux. Tout ce que tu permets dans ma vie, même certaines tristesses, parce qu'il ne fait pas d'erreur. Et dans la tristesse, et je ne veux pas exagérer dans ce que je dis, mais dans la tristesse, tout en étant triste, nous pouvons être heureux. Parce que Dieu est là, il nous accompagne dans la difficulté, n'est-ce pas ? Et enfin, en nous réjouissant en Dieu, nous pouvons lui rendre gloire. Non seulement nous sommes heureux, mais nous pouvons rendre gloire à ce Dieu. Et en plus, nous pouvons nous glorifier en lui. Comme le dit l'apôtre Paul, et c'est très intéressant, quand il dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Si je peux faire quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu. Et cela doit me réjouir, parce que c'est le seul qui est digne d'être loué et adoré. Vous savez que l'apôtre Paul, en disant cela, il nous dit comme il est écrit. Il nous dit comme il est écrit parce qu'en fin de compte, il cite un passage de Jérémie. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on peut se glorifier en Dieu. Ça a toujours été le cas. Dès le début, Adam a pu se glorifier en Dieu, se réjouir en Dieu. Il vivait une proximité avec Dieu, plus grande que nous pouvons même nous l'imaginer. Dieu est venu le visiter jour après jour. Maintenant, nous ne le voyons plus, mais nous pouvons vivre la même proximité pourtant. Dieu est là. Et donc, dans l'Ancien Testament, Jérémie, le prophète, dira dans Jérémie 9, 24, « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, en parlant de Dieu, n'est-ce pas ? De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Vous voyez ? Se réjouir, se glorifier en Dieu. Ce Dieu qui prend plaisir à exercer des bonnes choses. Il est de temps en temps obligé d'exécuter des jugements à cause de sa justice. Mais toutes les bonnes choses qu'il nous accorde, il nous les accorde aussi avec plaisir. Il nous les accorde avec plaisir. Dieu a de la joie à donner de la joie. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et dans ces temps de sécheresse cette année, nous, ça va encore en Alsace, mais j'ai entendu qu'il y a 85 départements en France qui subissent vraiment la sécheresse. Et tout ce peuple n'a pas l'intelligence de venir pleurer devant ce Dieu qui peut donner dans l'instant de la pluie, dans l'instant. Qui peut donner de l'eau au moment où il le faut, et il prendra plaisir à le faire. Mais de temps en temps, il parle aussi par la sécheresse, par les temps et les circonstances. Nous pouvons dire que nous pouvons être heureux de connaître notre Dieu. Oui, notre Dieu, je suis heureux de te connaître. Tu es puissant, glorieux, bon. Tu es ce Dieu d'amour. Tu m'as sauvé en Jésus-Christ et tu as fait de moi ton enfant. Combien je suis heureux de te connaître. C'est la gloire de Dieu en moi, ce que tu as fait pour moi. Et là, ce n'est plus moi qui brille, mais c'est mon Dieu qui brille en moi. Ça change totalement. Ça change toute ma vie et ça va changer toute ta vie. En conclusion, je voudrais dire que j'espère que nous sommes tous conscients, un peu plus aujourd'hui, je l'espère, de cette proximité, de cette intimité de notre vie avec Dieu. Il est toujours là. Il veut cette vie avec nous dans l'intimité. Sinon, le Seigneur Jésus n'aurait pas dit cela. Il n'aurait pas insisté par trois fois en disant « Et ton Père qui voit dans le secret, qui voit quand tu agis pour lui, te le rendra. » Il ne l'aurait pas dit. Or, le Seigneur insiste, il le dit. Quand nous nous rendons compte de cela, cela change notre regard maintenant sur cette fameuse prière. Je ne vais pas m'étendre sur la prière du Notre Père. Mais quand nous pensons maintenant à cette intimité avec Dieu, la prière prend une autre dimension. Nous la lisons, nous la connaissons, nous pouvons la réciter. Certains la récitent ensemble à l'église. Mais si vous pensez à votre intimité avec Dieu, et dans ce temps de prière, vous pouvez dire « Ô mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, n'est-ce pas, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Ça change la dimension de la prière. C'est pas une approche globale, c'est une approche de ma personne. Une approche de Dieu dans l'intimité. Et cela doit nous encourager. Nous encourager dans cette vie à chercher la sainteté et à chercher l'assentiment de Dieu pour nos actes. Quand nous agissons, nous devons chercher dans ces actions à plaire à Dieu. Nous demander, est-ce que le Seigneur peut dire oui quand je fais ça? Est-ce que c'est juste? Par contre, j'aimerais dire encore en conclusion que nous pouvons tromper. Nous pouvons tromper notre famille. Nous pouvons tromper nos amis. Nous pouvons tromper notre Église. Nous pouvons tromper nos anciens. Mais nous ne pouvons pas tromper celui qui nous jugera un jour sur nos actions secrètes. Nous ne pouvons pas le tromper. Et c'est à cause de cela que j'aimerais attirer l'attention à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ce matin. Vous avez entendu parler de cette vie, peut-être ça c'est un peu rentré dans une oreille, sorti de l'autre. Mais chers amis, ceci est une réalité. Ce Dieu est bien réel. Et c'est bien réel qu'un jour Jésus-Christ jugera nos actions secrètes. Ce que nous pensons pouvoir cacher à tout le monde. Donc je vous dirais, sentez et voyez combien ce Dieu est bon avec son peuple. Son peuple qu'il a racheté en Jésus-Christ. Son peuple avec lequel il veut cette intimité, cette complicité avec ses enfants qu'il aime. Ce n'est pas juste une belle parole pour le dimanche matin qui convient juste au culte. C'est la réalité. C'est la vérité. C'est une dure réalité. Mais si vous vous approchez de ce Dieu dans la repentance, il vous sauvera. Et si vous ne le faites pas, alors un jour il vous jugera. C'est une certitude. Alors si vous réalisez aujourd'hui que vous êtes perdu, que vous avez besoin de ce Dieu, qui vous connaît des pieds à la tête, qui connaît toutes les informations qui sont stockées dans vos cerveaux, qui connaît toute votre histoire, ce que vous avez fait, toutes vos actions cachées. Alors venez à lui. Parce qu'aujourd'hui encore, il est ce Dieu qui sauve. Et sachez